Mais bonjour à tous et à toutes. Bien souvent, il suffit de demander. Hein. Et lorsqu'on demande, on reçoit. Hein. C'est vrai que les murs commençaient à trembler. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans cette période de Noël. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour la première fois dans cette église, depuis pas mal d'années, il y a pratiquement trois messages sur Noël le même mois. Et ce matin, je vais encore vous parler de Noël. La Bible est remplie de textes qui nous parlent de Noël. Même dans l'Épître aux Hébreux, j'ai trouvé un passage qui parle de Noël. Qui a déjà lu le livre aux Hébreux? La plupart d'entre nous. Même dans ce livre, j'ai trouvé un passage qui parle de Noël. Extraordinaire. Gloire à Dieu. Donc, j'aimerais lire avec vous. Bon, c'est vrai qu'il faut, fouiller un petit peu. Mais ça parle quand même de Noël. Dans Hébreux, chapitre 2, Hébreux chapitre 2, les versets 14 à 18. Par définition, Noël, c'est Dieu qui vient parmi nous. Dieu qui choisit de devenir un homme. C'est ça Noël. Dieu parmi nous. Et pour devenir un homme, il faut avoir une condition humaine. La chair et le sang. N'est-ce pas? Je suis un homme, je suis fait de chair et de sang. Et dans la Bible, lorsque nous lisons que Dieu a choisi de devenir un homme, la chair et le sang, c'est Noël. Donc le texte que nous allons lire nous parle de Noël. Si vous me permettez, j'aimerais demander à mon frère Joseph de prier pour nous, s'il te plaît. S'il te plaît, Joseph.
Nous sommes
Amen. Donc, lisons ensemble dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. L'Épître aux Hébreux a été écrite, l'Épître a été écrite pour nous présenter la personne bénie de Jésus-Christ et la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. En tant que chrétien, mes amis, il est indispensable que nous connaissions qui est Jésus-Christ, mais surtout de comprendre son œuvre dans les cieux. Nous savons tous qu'il est mort sous la croix. C'est une réalité importante. Mais très peu d'entre nous réalisent l'œuvre qu'il fait dans les cieux. Et l'Épître aux Hébreux a été écrite pour nous présenter son œuvre dans les cieux, mes amis. Jésus est présenté comme notre grand souverain sacrificateur. En tant que tel, il est au service de Dieu dans les cieux pour nous. Et c'est la chose la plus importante que nous devions savoir, que Christ est dans les cieux pour nous. Dans ce passage que nous venons de lire, il est très clair, en tout cas à mes yeux, il est très clair que l'auteur parle de l'humanité du Fils. Et parler de l'humanité du Fils, c'est évoquer l'incarnation du Fils. C'est parler de Noël, Dieu fait homme. Parler de Noël, c'est dire, c'est affirmer, c'est prêcher que Jésus-Christ est venu parmi nous. Le message de Noël, c'est le message de l'incarnation. Et pour cela, l'auteur utilise quelques notions que nous pouvons comprendre. Des notions qui sont propres à notre vie de tous les jours. Il parle d'abord, il dit, il y a participé lui-même à la chair et au sang. Dieu participe à la chair et au sang. Ça veut dire que Dieu s'est fait homme. Et c'est vrai. Jésus-Christ est né comme un être humain normal. Il est né dans une famille pauvre en Israël. Il est né. Il a participé à la chair et au sang. Il parle aussi de la mort. Et c'est vrai, Jésus-Christ a été crucifié et il a même connu la mort de la croix. Ce sont des notions que nous, en tant que comme, on comprend parfaitement. La mort, on comprend la mort. L'être humain meurt. Aussi, il dit, verset 17, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. » Et c'est vrai, Jésus-Christ a été pleinement un homme. Il a même dû travailler de ses mains. Les hommes travaillent. Comme premier-né de sa famille, il a aidé son père adoptif, Joseph, comme charpentier. Il a dû travailler durement. il parle aussi, il a souffert. Nous comprenons tous la souffrance. Et c'est vrai, le Christ, il a connu une vie de souffrance à tout point de vue. Souffrance physique, j'ai parlé d'un métier difficile. Souffrance morale, il fut incompris par ses parents et par ses frères et sœurs. Rejeté par son peuple, trahi par un disciple. Ses disciples l'ont abandonné au moment où il avait besoin d'eux. On s'est moqué de lui. Il a connu aussi la souffrance spirituelle. En acceptant de mourir à notre place, en choisissant de prendre sur lui le châtiment de Dieu et de porter notre péché, il a accepté d'être éloigné un moment de son Père. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je crois que personne ne pourra comprendre la portée d'une telle souffrance. Christ a connu la souffrance physique, morale, spirituelle. Il est dit aussi, verset 18, « car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il fut tenté à l'extrême pendant toute sa vie. » Et en tant qu'homme, on comprend ce qu'est la tentation. Car nous sommes tous victimes de la tentation. Et il est écrit, en parlant de Jésus-Christ, que le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Pendant toute sa vie, le Christ fut tenté. Donc l'auteur utilise des termes pour parler de sa condition d'homme. Et des termes que nous comprenons tous. Donc ce passage nous parle de Noël, mes amis. Nous sommes en plein dans Noël. Mais pourquoi? La question c'est, mais pourquoi? Pourquoi Noël? Pourquoi l'incarnation? On va y venir. Jésus-Christ a vécu et a connu tout ce qu'un homme peut vivre et connaître, mais sans commettre de péché. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi sa vie et son sacrifice sont parfaits devant Dieu. Quel est le propre de l'homme? Le propre de l'homme, c'est de vivre et de mourir. Et à cela, personne n'y échappe. Le propre de l'homme, le propre de l'être humain, c'est de vivre et de mourir. Personne n'y échappe. Mais c'est aussi de souffrir et d'être tenté dans sa chair. Et là maintenant, il peut y avoir des différences. Certains vont souffrir plus que d'autres. C'est comme ça la vie. Certains vont être tentés plus que d'autres. C'est comme ça la vie. Mais il n'empêche qu'en tant qu'homme, nous allons tous connaître la souffrance et la tentation. Mais quel est le but fondamental de Noël? Nous savons qu'il est venu sauver de nos péchés. D'accord. Il faut le dire. Il faut le prêcher. Mais il faut aller plus loin. Et je crois que l'Épître aux Hébreux nous aide à aller plus loin. Que dit l'Épître? L'Épître nous dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Un des buts fondamentaux de l'incarnation, c'est de rendre impuissant le diable, de nous délivrer de la puissance du diable. Le diable qui nous tenait dans la servitude du péché et de la mort. Mais aussi pour secourir la postérité d'Abraham. Pourquoi l'auteur met-il l'accent sur la mort du Christ et non pas sur sa résurrection? On aurait pu comprendre qu'en parlant de la résurrection, il dirait par la résurrection, il a vaincu le diable. Non, il parle de la mort. C'est par sa mort qu'il a vaincu le diable. C'est par sa mort qu'il rend impuissant la puissance du diable. Pourquoi? Il faut savoir que Jésus-Christ, en mourant volontairement à la croix, il a accompli toutes les exigences de la loi de Dieu. Et en accomplissant parfaitement toutes les exigences de la loi de Dieu, il réalise parfaitement ce que l'homme était incapable de faire, c'est-à-dire d'obéir à Dieu. Nous étions tous incapables d'obéir à Dieu. Et Jésus-Christ a accompli la loi à notre place. De ce fait, le diable n'a plus de sujet d'accusation. Tant que quelqu'un n'avait pas accompli parfaitement la loi de Dieu, le diable nous accusait jour et nuit devant Dieu. Et le Christ, en mourant à notre place à la croix, a fermé la bouche du diable, mes amis. Il est écrit : car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Apocalypse 12, verset 10. Le diable n'a plus d'emprise sur nous. Et comme il ne peut plus nous accuser, il n'a plus de pouvoir sur nous. Et le Christ est venu nous délivrer de ce pouvoir. Nous délivrer de celui qui nous accusait jour et nuit. Devant Dieu, le diable ne peut plus nous accuser. Et Noël, c'est quoi Noël ? C'est le fait que Jésus soit venu sur cette terre fermer la bouche du diable. Que nous n'ayons plus cette emprise. Amen, gloire à Dieu, mes amis. Et c'est ça le message fondamental de Noël. Que le Christ est venu nous délivrer de la puissance du diable et de la mort par cela. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous révèle qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous obtenons la paix de Dieu. Et il n'y a rien de plus glorieux, de plus merveilleux, de plus fantastique que d'être en paix avec Dieu, mes amis. Et ça, c'est l'œuvre du Christ à la croix. C'est le pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre nous apporter la délivrance et la liberté. Nous apporter la paix de Dieu. Amen. Le diable ne peut plus rien faire contre nous, mes amis. Et pourquoi les hommes sont-ils encore dans la crainte ? Parce qu'ils sont encore sous le pouvoir du diable. Parce qu'ils n'ont pas encore réalisé que le Christ, par sa mort à la croix, les délivre de la puissance du diable. Il y a deux choses que l'homme craint. Il y a deux choses. L'homme craint la mort. L'homme craint la mort, mes amis. Et l'homme craint le diable. L'homme craint la mort, et pour minimiser ses effets néfastes et destructeurs, l'homme va choisir deux voies. Il va choisir de refuser de croire en l'existence du Dieu créateur. L'homme va se persuader que la mort est la fin de tout. Il va se dire, après la mort, c'est fini. Il n'y a plus rien. C'est le vide, c'est le néant. Et pourquoi c'est fini ? Parce que l'homme est le fruit du hasard, le fruit de l'évolution. Et que l'évolution s'arrête à la mort des cellules. Voilà, c'est fini. Ou bien, l'homme va refuser de donner à la mort sa vraie place dans la vie. Il y a deux choses qu'on ne peut y échapper. C'est de vivre ou de mourir. Mais on peut se dire que la mort n'est rien. On va banaliser la mort. La mort, c'est rien. On vit, on meurt et c'est fini. Et dans d'autres religions, notamment dans l'hindouisme, on parle même de la réincarnation. L'homme a besoin de plusieurs vies pour espérer atteindre la perfection. Et cela n'a rien à voir avec le message de la Bible. L'homme vit une fois et il est jugé une seule fois. Non, la mort ce n'est pas cela. Nous ne devons pas banaliser la mort, même si nous n'avons rien à craindre de la mort. C'est quoi la mort selon la Bible? Selon la Bible, la mort, c'est le dernier ennemi que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu en ressuscitant des morts. La mort, c'est un adversaire qui était au pouvoir du diable que le Christ a battu. La mort était au pouvoir du diable, mais le Christ l'a battu. L'homme a peur de la mort, mais l'homme a aussi peur du diable. Et pour le diable, mes amis, soit il va accepter qu'il n'existe pas, il va se dire que le mal qui règne dans ce monde n'est que le fruit de notre nature humaine. C'est le fruit de notre ignorance, de notre incapacité à contrôler les événements, de notre état d'innocence ou d'immaturité. Ou soit, il accepte l'existence du diable pour en avoir une fausse notion. Il veut dire, le diable existe, mais oui, c'est ce petit bonhomme rouge là, avec le petit pic là. C'est le petit dragon rouge. C'est ça le diable. Il fait pas peur. C'est rien du tout. C'est pour les enfants. Et s'il accepte, comme je l'ai dit, l'existence du diable, c'est qu'il va lui donner une importance qui n'est pas bonne. Le diable devient une créature aussi puissante que Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le diable est aussi puissant que Dieu. Et c'est pourquoi l'homme voit le diable partout. Le diable peut tout faire. C'est le diable qui dirige l'histoire du monde. Dans tout ce qu'on voit qui nous dépasse, c'est le plan du diable qui se réalise. Donc soit le diable devient une créature aussi puissante que Dieu, ou bien le diable, c'est rien du tout. C'est rien. Hein. Il devient une créature anodine. On le banalise. C'est rien du tout. Et dans ces deux cas de figure, le diable a gagné, mes amis. Soit on lui donne une place plus importante, ou on lui donne une petite place. Mais dans tous les cas, le diable a gagné. Pourquoi ? Parce que l'homme ne le reconnaît pas pour ce qu'il est vraiment. Le diable, c'est une créature de Dieu, puissante, mais limitée, sous le contrôle et au service de Dieu, préparée pour le jugement de l'enfer. Lorsque Jésus-Christ est venu nous délivrer, nous arracher de la main du diable, nous arracher. Imaginez, mes amis, une bête sauvage prise dans un filet. Une bête sauvage prise dans un filet qui se débat. Rien à faire. Il est pris. Et quelqu'un vienne couper les mailles du filet et le délivrer. C'est ça la délivrance. Le délivrer. Mais littéralement, Jésus-Christ est venu nous arracher des mains du diable, nous délivrer. En nous libérant du pouvoir du diable, Christ nous a ouvert les yeux sur ce qu'il est réellement. Seule la Bible peut nous enseigner sur ce qu'est le diable réellement. Et que dit la Bible du diable? La Bible nous dit que le diable est menteur, le père du mensonge. Le diable est méchant, orgueilleux, cruel, mauvais, etc. Et seule la Bible peut nous donner la bonne définition du diable. Mais n'oublions pas, mes amis, que le diable est une créature de Dieu, sous le contrôle de Dieu. C'est vrai, malheureusement, que le diable peut faire du mal à des hommes, même à des chrétiens, mais toujours sous le contrôle de Dieu, mes amis. Le contrôle de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Jésus-Christ, nous pouvons nous dégager de la puissance du diable. Il est écrit dans 2 Timothée 2, verset 26, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et que revenus à leur bon sens, voyez, leur bon sens, on peut dire lorsque la lumière a jailli dans leur esprit, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. 2 Timothée 2, verset 26. Aussi, acte 26, verset 18. C'est Jésus-Christ qui parle à Paul en disant « Je t'envoie parmi les nations afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. » L'évangile, mes amis, nous libère. L'évangile nous donne la puissance de nous dégager de la puissance du diable pour nous mettre sous la puissance de Dieu. Seul l'évangile, mes amis. Seule la bonne nouvelle de Noël. Seule la bonne nouvelle du message du Christ. Le message de la croix. C'est l'évangile, mes amis. Et ce qui est extraordinaire, c'est que celui qui se met sous la puissante main de Dieu est délivré de la puissance du diable. Ma question, mes amis, est-ce que Jésus-Christ nous a-t-il ouvert les yeux? Est-ce que la parole de Dieu a-t-il fait son œuvre dans mon cœur pour que je sache qui est le diable? Sommes-nous sous la puissante main de l'Éternel? Quel est notre maître? Est-ce que c'est encore le diable qui est notre maître, qui nous tient? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ qui nous a libérés par sa puissance éternelle? En tant que chrétiens, nous n'avons pas à avoir peur du diable, ni craindre sa colère. On n'a pas à avoir peur du diable, mes amis. Ça ne veut pas dire qu'il faut le tenter. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher le diable. Mais en tant que chrétiens, nous n'avons pas à avoir peur du diable. Je prends juste un exemple. Récemment, j'ai discuté avec un ami, un médecin, qui me parlait d'expériences occultes, magie. Et il me disait que un jour, il avait proposé à mon frère d'aller voir ce genre d'expérience. Et que mon frère, dès qu'il a vu ça, il est parti comme un fou. Il m'a dit, et toi Pierre, est-ce que toi tu crois à ces choses? Je dis, bien sûr que j'y crois. Mais j'ai pas peur de ça. Je n'irai pas dans ces réunions. Je n'irai pas. Mais j'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur du diable. Je suis sous la puissante main de Dieu qui me protège, qui m'a délivré de la puissance du diable. Bon, c'est vrai que D'autres amis missionnaires pourraient raconter pas mal d'expériences en Afrique de ces choses. Mais, bon, moi je suis en France, ça existe aussi. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que en tant que chrétiens, nous n'avons pas à avoir peur du diable. Nous n'avons pas à craindre la colère du diable. Celui que nous devons craindre, mes amis, c'est Dieu. C'est Dieu, l'Éternel, qui a le pouvoir de détruire l'âme et le corps. Si Dieu permet que le diable, sous le contrôle de l'Éternel, puisse toucher le corps des hommes, le diable ne peut pas toucher l'âme des hommes. Il faut le savoir. Seul Dieu a le pouvoir de détruire l'âme et le corps. Et lorsque nous sommes sous la puissante main de l'Éternel, le diable ne peut rien. Puisque le Christ l'a vaincu. Christ est venu nous délivrer de la puissance du diable. En tant que chrétiens, nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Parce que nous avons une espérance. Je prends un exemple très simple. J'étais tout petit en Guyane. Et je crois que c'était peut-être l'accident le plus terrible qui a eu lieu. C'est une voiture qui roulait très vite, comme toujours, et qui a percuté un poteau électrique. Et, et la voiture a pris feu. C'était tellement fort que dans tout le voisinage, le courant a été... Les compteurs ont sauté. Et c'est vrai que moi, et donc naturellement, malheureusement, les personnes à l'intérieur sont mortes, hein, et sont mortes, carbonisées. Et c'est vrai que j'avais peur d'entrer dans une voiture où, à l'arrière, on ne pouvait pas sortir. Donc c'était une voiture à deux portes. Et pendant des années, j'avais la crainte d'entrer dans une voiture à deux portes. Je n'étais pas encore chrétien. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque je suis venu à Jésus-Christ, Dieu a enlevé cette peur de la mort, cette peur de mourir un jour en voiture de porte. Puisque, en tant que chrétien, nous avons une espérance, mes amis. Dieu nous a délivrés de la servitude. Il est marqué, hein, dans Hébreux chapitre 2, verset 15. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Eh oui. Celui qui ne vient pas à Jésus-Christ, pendant toute sa vie, craint. Il est dans l'angoisse, il est dans la mort, dans l'angoisse de la mort. Il a peur parce qu'il ne sait pas après. Mais mes amis, la bonne nouvelle de Noël, c'est que Jésus-Christ est venu nous apporter cette espérance. Nous savons qu'en Jésus-Christ, où est-ce que nous irons? Amen. Nous avons une espérance, mes amis. Verset 16, « Car assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » Pourquoi, en parlant de Noël, l'auteur parle-t-il de la postérité d'Abraham? Qui est cette postérité? Comment peut-on faire partie? Mais, grande question d'avant, qui est Abraham? Voyons voir ce que dit l'apôtre Paul sur Abraham. Paul nous dit dans Romains 4, verset 12. Paul parle de ceux qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Romains 4, verset 12. Donc Abraham, le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Et verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père de grand nombre de nations. » Et selon Paul, Abraham est le père de la foi. Et il est question de ceux qui marchent sur les traces de la foi d'Abraham. Voilà ce que dit Paul sur Abraham. Mais que dit Jésus sur Abraham? Jésus parle d'Abraham en disant, dans Jean chapitre 8, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » C'est pourquoi, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. La postérité d'Abraham, mes amis, c'est tous ceux qui ont choisi de suivre le Christ par la foi. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu pour le salut de leur âme, au même titre qu'a fait Abraham dans le passé. Tous ceux qui marchent par la foi, comme Abraham lorsqu'il a cru à Dieu, lorsque Dieu l'a appelé. Tous ceux qui ont adopté une marche par la foi en Jésus-Christ jusqu'à son retour. Voici la postérité d'Abraham. Tous ceux qui attendent Jésus-Christ, tous ceux qui ont mis leur confiance en lui et qui attendent son retour. Alors comment faire partie de cette postérité? En venant à Jésus-Christ. Lorsque je viens tel que je suis à Jésus-Christ, je fais partie de la postérité d'Abraham. Lorsque je décide de marcher par la foi comme Abraham, je fais partie de la postérité d'Abraham. Et dans l'Épître aux Hébreux, car assurément ce n'est pas à des anges qui vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Mais quelle est cette aide? Quelle est cette aide que le Christ apporte? L'humanité du Christ avait pour but de devenir pas uniquement notre sauveur, mes amis. Pas uniquement notre Seigneur. L'humanité du Christ avait pour but de devenir notre grand souverain sacrificateur. Il faut que nous sachions ça. Et tant que je suis dans cette église, je vais le répéter. Verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Christ a pris forme humaine. Christ est devenu un homme pour être notre grand souverain sacrificateur. Il n'est pas dit notre sauveur. Il n'est pas dit notre Seigneur, bien qu'il le soit. Mais surtout, notre grand souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle. Miséricordieux envers nous. Ça veut dire quoi être miséricordieux, mes amis? Ça veut dire quoi être miséricordieux? La compassion, quoi de ton corps? La bonté, quoi de ton corps? L'amour, quoi de ton corps? Là? Patience, oui, d'accord. Je prends un exemple. Quelqu'un passe un examen, un contrôle. Quelqu'un passe un examen à l'école ou au travail, un examen. Il a rendu sa copie. Et après, il a des doutes sur sa copie. Il ne sait pas s'il a bien reçu ou pas. Qu'est-ce qu'il attend de l'examinateur? Ça? Compassion. Ouais. L'indulgence. Ouais. Est-ce qu'il attend qu'il soit patient? Non. En tout premier lieu, il attend qu'il soit indulgent, qu'il soit miséricordieux, qu'il lui fasse grâce. C'est ça. Mais c'est ça Jésus-Christ, mes amis. Jésus-Christ est notre grand souverain sacrificateur miséricordieux. Le Christ, lorsqu'il nous regarde, il nous fait grâce. Il est miséricordieux envers nous. C'est pourquoi le Christ est venu, mes amis, pour qu'il nous soit miséricordieux. Et pourquoi est-il miséricordieux? Parce qu'il est passé par nos souffrances. Parce qu'il est passé par là, mes amis. C'est parce que le Christ s'est fait homme. Parce qu'il a vécu pleinement une humanité comme nous qui peut nous comprendre. Qui peut nous faire grâce, mes amis. Il peut nous comprendre, mes amis. Vous savez, c'est vrai que Dieu qui a créé l'homme, Dieu nous comprend. Dieu nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Mais c'est encore plus fort lorsque Dieu a vécu lui-même notre vie. Comme le Christ a vécu ce que nous-mêmes nous vivons, il peut nous comprendre. Il sait qu'est-ce que c'est que la tentation. Pendant toute sa vie, il a été tenté. Il est dit que le diable, au temps favorable, le tentait. Et il a été vainqueur en toute chose. Lorsque nous passons par la tentation, mes amis, on a deux choix. Le chrétien, lorsqu'il est devant la tentation, il a deux choix, mes amis. Soit il crie à Jésus, « Seigneur Jésus, viens à mon secours. » Ou il laisse faire. Il laisse faire. Soit il se met à genoux, il crie à Jésus, « Seigneur, donne-moi ta force, tu es passé par là. » Ou bien il laisse faire. Et le diable gagne. Bien sûr, il y a le pardon, on verra ça tout à l'heure. Mais le diable gagne. Et le Christ, comme il est passé par là, il peut nous comprendre. C'est pourquoi il est dit qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux. Miséricordieux. Et le Christ, pourquoi est-il... Comment manifeste-t-il sa miséricorde envers nous ? Par sa douce présence, par l'assistance de son esprit. Christ nous a promis d'être présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous, en tant que chrétiens, devant la tentation, on peut dire, Seigneur, je sais que tu es là. Soutiens-moi. Il a aussi promis l'assistance de son esprit. Et c'est par son esprit qui vit en nous que nous pouvons être forts. Et aussi, il est écrit qu'il soit miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Pourquoi notre grand souverain sacrificateur devait-il être fidèle? Ça veut dire quoi être fidèle? Ça veut dire quoi être fidèle? Qui n'aime pas sa parole, qui ne change pas. Soyons encore plus simples. Toujours là, encore plus simple. Ça veut dire quoi alors qu'on dit que cette personne, elle est fidèle? Voilà, voilà, confiance. Digne de confiance. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Et pourquoi Jésus-Christ est-il digne de confiance? N'oublions pas qu'il y a toujours une allusion au grand souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Est-ce que eux, à l'époque, ils étaient fidèles? On dira, pardon, on dira, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà. On ne peut pas dire qu'ils étaient bons ou mauvais. En tout cas, on dira, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'était des hommes limités. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et beaucoup ont fait de leur mieux. Mais le Christ, la Bible dit qu'il est fidèle, digne de confiance. Parce qu'il s'est offert lui-même. Christ s'est offert lui-même. Et c'est parce qu'il s'est offert lui-même à Dieu qu'aux yeux de Dieu, il est digne de confiance. Il est fidèle. Et c'est parce qu'il est fidèle que le chrétien peut se reposer pleinement en lui. Le chrétien peut avoir la paix parce qu'il sait que son grand souverain sacrificateur est fidèle dans le service de Dieu. Et quel est ce service, mes amis? Présenter le sang. Dans l'Ancien Testament, une fois par année, le grand souverain sacrificateur présentait le sang pour lui-même, pour sa famille et pour le peuple. Une fois par année. Et c'était un pardon temporaire. Alors que maintenant, mes amis, que nous dit 1 Jean chapitre 1, verset 9. On va le lire et terminer dessus. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Eh bien, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire que constamment, mes amis, le Christ présente ce sang précieux à son Père. Constamment. Constamment, fidèlement. Et c'est parce qu'il le présente constamment que nous pouvons avoir cette assurance de recevoir le pardon de nos péchés. Amen. Dans cette assurance, mes amis, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. C'est ça Noël, mes amis. Hein? Noël, c'est quoi? C'est que le Christ est venu parmi nous pour être notre grand souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Nous délivrer de la puissance du diable. Nous délivrer de la puissance de la mort. Nous affranchir, nous rendre libres pour que nous puissions marcher avec lui. Amen. Donc, mes amis, je conclue par des questions. Que peut-on dire pour conclure? Quel message merveilleux, mais aussi quel sauveur merveilleux. Quel puissant sauveur, mais aussi quelle merveilleuse liberté et délivrance en lui. Quel cadeau de Dieu pour l'homme, mais aussi quel prix à payer pour le donner. Où en suis-je maintenant? Sous l'emprise du diable ou entre les mains puissantes de Dieu? Ai-je donné ma vie à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle ou suis-je encore dans la servitude de la mort? Vous seul, vous pourriez répondre devant Dieu. Alors que Dieu nous bénisse dans sa grâce et qu'il nous donne de marcher fidèlement jusqu'à son retour. Amen.